Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre émission d'actualité internationale que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon et Lucas Lazo, mais aussi Hélène Lefrançois et Bertille Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Élise Le. Dernier temps de notre série consacrée au laboratoire politique de l'Europe. Après avoir évoqué lundi les populismes à l'italienne, mardi la réinvention très droitière de la démocratie chrétienne en Hongrie, puis mercredi l'improbable alliance entre verts et conservateurs du côté de l'Autriche, tournons-nous ce matin vers le modèle néolibéral britannique, le néolibéralisme britannique stop ou encore, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
This country is leaving its chrysalis.
Notre pays quitte sa chrysalide. Notre pays retrouve sa liberté après des décennies d'hibernation. Nous retrouvons notre rôle de promoteur du libre-échange. C'est une liberté fondamentale. Le libre-échange est en train de s'effondrer. Et ce n'est pas la faute du peuple, ce n'est pas la faute des consommateurs. Ce sont les politiciens qui ont échoué, j'en ai bien peur. Nous sommes prêts pour ce grand jeu d'échecs international qui va nous demander de nous lancer dans plusieurs négociations en même temps et nous nous préparons à utiliser toutes les forces mentales et physiques ainsi que les bons réflexes dont ce pays n'a pas usé pendant un demi-siècle.
Boris Johnson, le 20 janvier dernier, optimiste et regonflé à bloc après la victoire de son parti aux élections du 12 décembre dernier, qui lui a permis d'obtenir une large majorité, de quoi aborder assez sereinement l'avenir. Hier, le chancelier de l'échiquier britannique Rishi Sunak a présenté le premier budget post-Brexit du Royaume. Si le coronavirus qui a frappé de plein fouet l'économie outre-Manche a un peu bousculé les priorités du gouvernement, on y retrouve les grandes orientations précédemment annoncées par Boris Johnson. D'un côté, la réduction, voire même la suppression de certaines taxes, et puis de l'autre, eh bien, un vaste plan d'investissement destiné notamment à réhabiliter et désenclaver les régions sinistrées du nord de l'Angleterre, qui ont inhabituellement voté conservateur aux dernières élections et que les Tories comptent bien fidéliser. Bref, le choix de la dépense, tout en réduisant la charge fiscale. Une double perspective qui illustre assez bien ce moment charnière que traverse actuellement le modèle néolibéral britannique. Alors que celui-ci est régulièrement accusé d'avoir conduit au Brexit en paupérisant les oubliés de la mondialisation, Boris Johnson promet de rendre à ces derniers leur part du gâteau à travers un programme d'infrastructures aux accents étonnamment keynésiens pour un conservateur. Mais il promet également que c'est par un libre-échange sans entrave, non seulement avec l'Europe, mais également avec d'autres partenaires, que la Grande-Bretagne pourra libérer son potentiel. Et si l'Union européenne n'accepte pas de jouer le jeu, la menace de faire de Londres un Singapour sur Tamise, complètement dérégulée, continue d'être brandie. Alors pionnière néolibérale en Europe, la Grande-Bretagne le restera-t-elle après le Brexit? C'est la grande question sur laquelle nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons invité ce matin Catherine Mathieu. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste à l'OFCE. Vous êtes une spécialiste du Royaume-Uni, des questions européennes et des questions économiques en particulier. Vous avez signé récemment un billet sur le blog de l'OFCE, Brexit, les négociations commence ou recommence, on aura l'occasion évidemment de parler de ces négociations. Nicolas Sowells, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence en civilisation britannique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors, on va commencer avec l'actualité d'hier. Ce premier budget post-Brexit qui a été présenté par le ministre des Finances, Rishi Sunak, qui a expliqué que l'épidémie de coronavirus aurait un impact important mais temporaire sur l'économie britannique. Ça faisait plusieurs jours que dans les médias britanniques, il y avait cette injonction à réajuster justement le budget compte tenu de son impact sur le volet économique. Et on a répondu, Catherine Mathieu, à cette injonction puisqu'on a annoncé un plan de 30 milliards de livres pour soutenir l'économie. On a une idée un tout petit peu de ce qu'il y a derrière ce plan coronavirus. On a beaucoup parlé de ça hier au Parlement britannique.
Oui. Alors en fait, donc Rishi Sunak a annoncé un plan de 30 milliards, mais il a précisé que parmi ces 30 milliards de livres, seuls 12 milliards étaient véritablement de nouvelles mesures destinées à faire un plan pour vis-à-vis de la montée de l'épidémie de coronavirus. Et alors sur ces 12 milliards, il y a deux grands types de dépenses prévues. 5 milliards à peu près pour les dépenses de santé, qui vont bien sûr être la priorité, qui sont la priorité actuellement pour éviter que l'épidémie fasse trop de dégâts partout, y compris particulièrement au Royaume-Uni dans le cas présent. Donc 5 milliards pour le système de santé et 6 milliards pour d'allègement pour les entreprises, hein, auxquelles on va dire cette année vous ne payez pas un certain nombre de taxes. Pour l'année 2020, on allège les impôts des entreprises et en particulier des petites et moyennes entreprises. Donc deux grands volets sur ce plan qui a été annoncé hier.
Il y a aussi une augmentation des indemnités de maladie qui ont été prévues hier.
Alors ça avait déjà été annoncé auparavant. En fait, ça a été confirmé dans le plan hier.
Nicolas Sowells, jusqu'où est-ce que ce coronavirus pourrait avoir un impact sur la politique britannique de demain? Avant de commencer cette émission, vous me disiez, si ça se trouve, ce qu'on va dire là aujourd'hui, dans une semaine, 10 jours, 2 semaines, sera plus du tout d'actualité. C'est à ce point-là?
C'est possible, hein. Je pense que c'est possible. Moi, je suis absolument pas du tout spécialiste
sur le
développement de la pandémie. Mais l'OMS a dit il y a déjà quelques semaines que éventuellement 60% de la population mondiale pourrait être impactée. Ça peut donc se développer encore assez loin, probablement, ou peut-être. Moi, comme je vous ai dit, je suis absolument pas spécialiste de ce domaine-là. Donc, il peut avoir un impact concret, direct, vraiment sur toute la population, comme en France, partout dans le monde. D'une part, et d'autre part, on voit déjà il y a un choc sur les marchés financiers qui est déjà bien entamé. Les marchés ont beaucoup baissé ces derniers jours et on ne sait pas du tout en fait quelle sera la conséquence par le biais de tout le système financier.
Sachant qu'on a déjà commencé à répondre avec cette décision de la Banque Centrale d'Angleterre qui a baissé ses taux d'intérêt. Ça, c'est peut-être aussi un point très important pour soutenir l'économie.
Ça peut aider un petit peu, bien sûr, à la marge, mais les taux d'intérêt n'étaient pas excessivement élevés avant. Donc, les marges de manœuvre
sont faibles
pour l'instant. Ouais.
Catherine Mathieu.
Oui, effectivement, les marges de manœuvre sont faibles en termes de baisse des taux d'intérêt. Mais par contre, en termes de mesures de soutien aux entreprises, et là aussi, la Banque d'Angleterre a annoncé des mesures de soutien, dire aux entreprises, vous n'allez pas rembourser vos intérêts aussi rapidement que ce qui était prévu. Vous allez avoir du temps, dire aux banques aussi qu'elles auront aussi des ressources à un coût moindre. Tout ça doit permettre de limiter la casse en termes économiques à très court terme. Et ce que je pense important, c'est dans la réponse qui a été apportée par les Britanniques ces deux derniers jours, c'est à la fois ce plan de soutien de la Banque d'Angleterre et cette présentation du budget. On se trouve un peu comme lors de la crise financière de 2007-2008, dans une situation où au Royaume-Uni, très rapidement, on agit. On n'attend pas des jours et des jours pour réfléchir à ce qu'on va faire, ce qu'on va prendre comme mesure pour sauver, pour réduire les problèmes, sauver l'économie. Et on agit rapidement et on agit ensemble. Mmh. Et donc ça, c'est quelque chose qui me semble très important.
Oui, alors sauf que là, précisément, on agit ensemble et rapidement. À nouveau, le coronavirus joue là-dessus parce que, alors, on a appris certes que la secrétaire d'État à la Santé, Nadine Dorries, a été contaminée par le Covid-19. Il y a un ancien ministre conservateur qui, lui, a carrément appelé à la fermeture du Parlement. Donc il y a aussi un autre danger qui est celui que finalement les institutions, la mécanique institutionnelle parlementaire britannique se grippe à un moment où on a absolument besoin de régler les choses. On va tout à l'heure évidemment parler des négociations avec les Européens, mais on est à un moment décisif. Si le Parlement ferme, c'est une catastrophe. Nicolas Sowells.
Oui, je suppose. Alors, il y a peut-être des solutions technologiques pour pallier au problème de débat parlementaire. Mais ce problème de grippage, à mon sens, c'est beaucoup plus important dans toute la société, dans toute l'économie.
Alors, regardons peut-être, Catherine Mathieu, on va commencer avec vous, ce qu'il y a derrière ce ce budget post-Brexit. Jusqu'ici, on ne savait pas très bien où voulait vraiment aller Boris Johnson. Est-ce qu'il allait aller vers davantage d'ouverture, de libre-échangisme, de néolibéralisme? Est-ce qu'il allait aller vers de la relance, de l'investissement, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire là de ce budget qui a été présenté hier? Est-ce qu'on y voit un peu plus clair sur ce que sera la politique de Boris Johnson?
Je dirais que oui. En fait, il me semble que Boris Johnson est clair sur ce qu'il souhaite faire depuis qu'il a pris la tête du gouvernement britannique. Donc, ce que ce budget montre, c'est exactement ce qui avait été annoncé dans la campagne des conservateurs lors des législatives de décembre 2019, c'est-à-dire un plan d'investissement important, en particulier un plan d'investissement important en infrastructures qui vise à désenclaver le nord de l'Angleterre et les régions les plus défavorisées du Royaume-Uni. Il vise aussi à ouvrir ce budget, enfin, en accompagnement de ce budget, il y a cette ouverture sur le vaste monde, ce libre-échange dont Boris Johnson parlait en ouverture dans l'extrait du discours que vous avez diffusé. Mais ça, Boris Johnson le dit depuis tout le temps, en fait, hein, qu'il faut que le Royaume-Uni va rester ouvert sur le vaste monde, que le Brexit, ça n'est pas du tout une fermeture du Royaume-Uni, que le Royaume-Uni va s'engager à négocier avec les autres pays hors Union européenne des accords de libre-échange. Et donc, en fait, je dirais, ce budget n'est pas pour moi une surprise. C'est vraiment la confirmation de ce qui avait été annoncé. Un plan d'investissement. Alors, là où c'est un petit...
Il est tenable, Catherine Mathieu, parce que prévoir à la fois d'investir et en même temps de maintenir les charges, voire même de baisser la charge fiscale, parce que c'est ce qui est annoncé. Est-ce qu'on peut faire les deux? Parce que, concrètement, si on fait ça, on creuse le déficit, hein.
Oui, alors sur la charge fiscale, il faut voir qu'actuellement il y a tout de même une situation particulière, justement cette situation du coronavirus qui arrive et où tous les gouvernements vont mettre en place des mesures de soutien à l'économie. Je dirais ça permet de laisser un petit peu de temps au gouvernement britannique en laissant se creuser les déficits sans que, y compris à l'intérieur du Parti conservateur, on accuse le gouvernement d'être trop laxiste en matière budgétaire. Ça, c'est pour le court terme. Sur les baisses de la fiscalité des entreprises, quand même, Boris Johnson a renoncé à baisser le taux d'imposition sur les sociétés, qui aurait dû baisser de 19%, ce qui est déjà un des niveaux les plus bas des pays de l'OCDE, à 17% en avril. Cette baisse, il l'a pour l'instant annulée. Ça va permettre de garder des recettes de l'ordre de 6 milliards de livres dans le budget cette année. Le budget aussi annonce la mise en place d'une taxe sur les GAFA, qui est maintenue au Royaume-Uni, qui devrait rapporter 500 millions de livres selon le budget. Donc il n'y a pas véritablement de mesures qui sont très favorables aux entreprises à très court terme dans ce budget. En fait, c'est vraiment l'accent qui est mis sur l'investissement. À plus long terme, la question risque de se poser différemment. Parce que ou bien la stratégie britannique réussit, c'est-à-dire qu'effectivement, indépendamment de la situation actuelle du coronavirus et de l'affaiblissement de la croissance qui va nécessairement se produire, soit le plan d'investissement fonctionne et effectivement permet à l'économie britannique de croître à un rythme l'an prochain de 1,8% selon le budget et puis ensuite à un rythme de 1,3% par an. Et donc dans ce cas-là, ce que nous prévoit le budget aujourd'hui, c'est un déficit public qui ne se creuserait pas énormément finalement. On passerait de 2% du PIB à peu près à 3% et on aurait une dette publique qui resterait stable. Donc ça, ce ne serait pas un problème. Mais si cette stratégie échoue, là, les conservateurs derrière sont déjà en train de dire, de mettre en garde le gouvernement, c'était le cas hier de Theresa May et de Sajid Javid, le précédent chancelier de l'échiquier, qui mettait en garde le gouvernement actuel en disant attention, ne dépensez pas trop parce qu'il faut quand même qu'on reste sérieux en termes budgétaires. Hein. L'objectif du précédent gouvernement, c'était de ramener le déficit public à l'équilibre.
Alors justement, Nicolas Sowels, parce que Catherine Mathieu souligne ce risque de faire trop de dépenses, mais il faut aussi rappeler que en réalité, pendant un moment, une partie des conservateurs considérait qu'on avait fait trop d'austérité et qu'il fallait justement refaire de l'investissement. Là, concrètement, aujourd'hui, qu'est prêt à accepter la majorité de Boris Johnson? Jusqu'où est-ce qu'on peut, on accepte d'aller dans les dépenses, dans le réengagement de l'État, dans les affaires économiques?
C'est une vraie question en fait. Hein. J'hésiterais de reprendre d'une manière définitive. Hein. Je pense que ce que Catherine Mathieu a dit, c'est vrai que si la croissance elle se maintient ou si elle s'établit à un niveau de 1,8% l'année prochaine, quelque chose comme ça, et si cette politique budgétaire a l'air de marcher, je pense que quand même ça va être accepté. Hein. Je pense que politiquement, historiquement, le parti conservateur ça a toujours été quelque part aussi une partie très pragmatique pour qui se maintenir au pouvoir est vraiment l'objectif numéro un.
Et comme investir est une condition pour se maintenir au pouvoir, on investit, c'est ça, je résume?
Surtout, il y a une stratégie maintenant de d'assurer la conquête des régions du Nord que le parti a gagné pendant les dernières élections au mois de décembre. Donc ça, c'est quand même une priorité affichée relativement importante. Et je pense qu'il y aura pas mal de choses qui seront mises en œuvre pour faire ça. Donc si effectivement le gouvernement peut continuer à emprunter sur les marchés financiers à des taux basses, ce qui est pour l'instant est le cas, si ça peut continuer un certain temps, à mon sens, ils vont montrer quand même une certaine flexibilité pour garantir en fait leur nouvel positionnement dans le Nord.
Alors voilà pour le volet intérieur, regardons maintenant, ouvrons nos horizons et regardons où est-ce qu'on en est des relations avec l'Union européenne et surtout des discussions sur ce que sera le futur des relations justement avec l'Union européenne. Écoutons d'abord Michel Barnier qui est celui en Europe qui est chargé justement de ces discussions.
D'abord, nous avons dû organiser et mener à bien ce Brexit. Ce que nous avons fait, le premier round est terminé. Maintenant, nous devons tout reconstruire. Cette négociation n'est pas habituelle, parce que, à la fin de cette année, comme le Royaume-Uni quitte le marché unique, c'est son choix, et quitte l'union douanière, si nous ne trouvons pas d'accord, il n'y aura pas de statu quo. Nous devons nous préparer au risque d'une rupture, en particulier pour le commerce.
Business as usual and the statu quo. We have to face a risk of a cliff edge, in particular for trade.
Voilà, alors la période de transition, Catherine Mathieu, va durer jusqu'au 31 décembre et après, il va bien falloir trouver un nouveau cadre. Ou pas, mais enfin, en tout cas, l'objectif pour le moment, c'est de trouver un nouveau cadre. Les négociations ont recommencé, justement, c'était il y a quelques jours, c'est le 3 mars dernier. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce qu'on a l'impression que du côté britannique, on a réellement envie de trouver un accord ou est-ce que c'est pas si sûr?
Il me semble que du côté britannique, on a envie de trouver un accord, mais on a envie de trouver un accord de libre-échange. Ça, l'Union européenne dit d'accord pour négocier un accord de libre-échange. Mais ensuite, on a envie de le faire, cet accord, tout en gardant au Royaume-Uni une certaine marge, en particulier en ce qui concerne l'évolution des normes et des réglementations, puisque actuellement, le Royaume-Uni, faisant partie de l'Union européenne, respecte bien sûr les règles et les réglementations et les normes en place dans l'Union européenne. Mais une fois qu'il sera entièrement sorti de l'Union européenne, que fera-t-il? Alors la crainte du côté de l'Union européenne, c'est que le Royaume-Uni déréglemente. Alors on pense en particulier à certains secteurs, notamment le secteur alimentaire et phytosanitaire, où là il y a un risque que les normes soient abaissées. Et donc l'Union européenne essaye de garantir que ceci ne se produise pas. Alors on a longtemps parlé à l'intérieur de l'Union européenne d'alignement, d'un maintien de l'alignement des règles, mais du côté du Royaume-Uni on ne veut pas entendre parler d'alignement, pas du tout, puisque le Royaume-Uni, en quittant l'Union européenne, souhaite reprendre sa souveraineté. Et donc,
cet alignement, est-ce que du côté européen, c'est la condition pour l'accès au marché commun?
C'est la condition qui a toujours été fixée, effectivement, par l'Union européenne, par les négociateurs, cet alignement. Alors maintenant, comme l'a dit Michel Barnier à plusieurs reprises, il comprend, Michel Barnier, que c'est un chiffon rouge, ce mot d'alignement pour les Britanniques. Et donc, on essaye de trouver, je pense, une autre formulation. Du côté britannique, dans les lignes de négociation qui ont été publiées, on parle de reconnaissance mutuelle. Donc, je pense que les négociations vont essayer de trouver une formule qui permette de ne pas parler d'alignement, mais tout de même que le Royaume-Uni garantisse qu'il gardera les mêmes règles.
Nicolas Sewell, sur ce nouveau round de négociations, et puis peut-être pour aller plus en avant, sur cette hypothèse que, alors là pour le coup, on agite ce chiffon rouge qu'on agite du côté de Londres, qui serait de transformer le pays en Singapour sur Tamise, en libéralisant un peu tout et en faisant au fond du pays un véritable paradis fiscal. Est-ce que vous pensez que c'est véritablement une option dans la tête de Boris Johnson?
Je pense que Boris Johnson lui-même, il est surtout extrêmement opportuniste. Donc, lui, il va un petit peu là où les choses se présentent le mieux pour lui-même, très spécifiquement, et pour son parti en général. C'est vrai que je pense quand même on est avec le budget hier et avec cette stratégie de s'assurer des nouveaux territoires que le parti a conquis pendant les dernières élections, il y a quand même un changement qui est en train de se faire de ce point de vue-là. Je pense que le modèle très libéral dans le sens où, à un moment donné, au début des années 2010, il y avait un espoir de la part de l'ancien chancelier de l'échiquier, George Osborne, de carrément ramener la dépense publique à 35% du PIB. Hein. C'était un petit peu une sorte de cible à long terme. Je pense qu'on n'est plus dans cette configuration-là. Je pense que ce serait très difficile vraiment de retourner vers des compressions comme ça des dépenses publiques dans la part du PIB. Donc je pense qu'ils seront très flexibles là-dessus. Donc ils vont essayer sûrement de déréglementer dans certains domaines. Hein. Ça va être le cas. D'autant plus que s'ils vont s'engager dans des négociations avec les Américains sur l'agriculture et les choses comme ça, les Américains ils vont fortement appuyer là-dessus. Après, il faut aussi après prendre en compte ce que disent l'opinion publique britannique. Hein. C'est-à-dire l'opinion publique britannique pense et aime et croit à ce que les produits alimentaires britanniques sont très sûrs, à ce que l'agriculture est très protecteur des animaux. Les Britanniques aiment bien se penser comme des amis des animaux. Donc, il y a des paramètres comme...
Non, mais c'est vrai.
Bah, je sais pas. Non, c'est ce qu'ils disent en tout cas. C'est ce qu'ils pensent eux-mêmes. Hein.
Ouais.
Donc, il y a des paramètres un peu comme ça qui vont limiter un petit peu aussi cette déréglementation. Tout azimut. Donc, je pense que, en fin de compte, ce serait compliqué. On va voir. Je pense surtout, en fait, ce qui compte actuellement, et c'est là où on voit un durcissement, je pense quand même, de la position britannique, c'est l'idée que nous, on veut déterminer nos propres réglementations. Là, par exemple, la semaine dernière, le gouvernement a annoncé que ils vont se retirer de l'agence européenne qui garantit la sûreté de l'aviation civile pour avoir leur propre agence et pour avoir leurs propres normes et tout ça. Donc il y a un affichage où il y a quand même une radicalisation vers le nationalisme, mais ça ne veut pas forcément dire que ce serait le libéralisme pur et dur. Je pense que de ce point de vue-là, ce serait plus nuancé, mais la position nationaliste dans les négociations avec l'Europe, à mon sens, se durcisse et ça peut aller assez loin en fait.
Catherine Mathieu, quelle est la possibilité de voir nos voisins britanniques transformer le pays en Singapour sur Tamise, d'aller vers une déréglementation poussée, notamment en matière fiscale ? Comment vous voyez les choses ?
Je pense que déjà, on peut rappeler que les Britanniques ont beaucoup fait à l'intérieur de l'Union européenne pour déréglementer, et notamment en matière fiscale, hein, comme on le disait tout à l'heure, il y a un taux d'imposition des sociétés qui n'est que de 19% au Royaume-Uni. Et de façon générale, les Britanniques ont, depuis leur entrée dans la communauté économique européenne, étaient ceux qui ont poussé pour que l'Union européenne se déréglemente. Donc ça, c'est déjà un élément important. Dans le cadre des négociations, aujourd'hui, il y a un point principal sur lequel les Britanniques ne sont pas en position de force, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est sur la question des services financiers, puisque là, la City a beaucoup à perdre, effectivement, si l'Union européenne durcit les conditions d'accès des institutions financières britanniques une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne.
Comment ça les durcit ? Parce que le fameux passeport financier, c'est à ça, j'imagine, que vous faites référence. Ils ne l'auront plus, justement, les établissements britanniques.
Voilà, ce que l'Union européenne a dit que les passeports financiers, effectivement, les institutions financières britanniques ne les auraient plus. Mais ce qui se discute déjà en ce moment et qui devrait être avancé d'ici le mois de juin, c'est une autre formule qui serait probablement des accords d'équivalence qui seraient négociés sur une base annuelle et où l'Union européenne, de façon unilatérale, pourrait dire chaque année avec un préavis de 30 jours à une institution financière britannique. Eh bien non, à partir du mois prochain, vous n'aurez plus le droit de vendre vos services financiers à l'intérieur de l'Union européenne parce que vous ne respectez plus telle et telle réglementation. Donc ça va être un point important des négociations aujourd'hui. Je pense que les Britanniques souhaiteront garder un accès facile au marché de l'Union européenne et donc ne pousseront pas trop pour déréglementer de leur côté si l'Union européenne, je parle en matière financière, leur garantit toujours un accès au marché. Le point, pour moi, la difficulté serait que si à un moment donné l'Union européenne est vraiment trop dure et restreint l'accès au marché de l'Union européenne, là les Britanniques pourraient être tentés de déréguler et le Singapour sur Tamise pourrait prendre forme. Alors il pourrait prendre forme mais quand même dans une certaine limite parce que aujourd'hui, par exemple, les Britanniques respectent les accords internationaux, notamment les accords de Bâle en matière financière, et je n'imagine pas que demain, si les négociations se passaient mal avec l'Union européenne, ils disent, eh bien, on déréglemente complètement et on sort, y compris des accords internationaux.
Et il y a beaucoup de différences entre Bâle et les normes européennes en matière financière ?
En fait, notamment les accords de Bâle concernent les ratios de solvabilité, des éléments importants pour la stabilité des banques. Donc ça, je pense que les Britanniques le maintiendront. Et après, sur la question du passeport financier à l'intérieur de l'Union européenne, se joue aussi beaucoup le fait qu'aujourd'hui, tous les échanges se font de façon très fluide. Si demain, l'Union européenne dit aux Britanniques, chaque année, on va réexaminer les accords d'équivalence, bon, ça sera un peu moins fluide. Mais pour moi, ça n'empêcherait pas les activités financières de se poursuivre.
On va écouter Donald Trump pour parler évidemment de ce qu'on projette de faire peut-être s'agissant des futures relations commerciales entre la Grande-Bretagne et les États-Unis.
Je souhaite féliciter Boris Johnson pour sa superbe victoire. Je pense qu'il s'agit d'un signe avant-coureur de ce qui va se passer dans notre pays aux prochaines élections. Cela va être une très bonne chose aussi pour les États-Unis, car cela signifie beaucoup d'échanges commerciaux. Le Royaume-Uni meurt d'envie de commercer avec nous. À l'époque de l'Union européenne, c'était vraiment très difficile pour eux de faire autant de commerce avec nous. Nous venons de conclure de grands accords commerciaux avec le Mexique, avec le Canada, comme vous le savez. Nous avons un énorme accord commercial qui est en train d'être ratifié par la Chambre en ce moment, et ce sera une chose incroyable pour notre pays.
Voilà, Nicolas Sowles, Donald Trump, 2 jours après la victoire des conservateurs. Il était passé, Donald Trump, en Grande-Bretagne. Et comme toujours, c'est toujours super, incroyable, extraordinaire, gigantesque. Ce qu'on attend de cet accord, c'est quoi? On en est où aujourd'hui? Parce que là aussi, les négociations ont commencé. Est-ce qu'on peut espérer effectivement un accord entre les États-Unis et la Grande-Bretagne? Et est-ce que ça peut permettre de compenser le manque à gagner du côté de l'Europe?
C'est sûr que c'est ce que les Britanniques ou le gouvernement espèrent. Hein. Ils espèrent quand même d'arriver à un accord assez rapide avec Donald Trump. Si je me trompe pas, les Américains ont dit on peut négocier un peu secteur par secteur pour que ça aille plus vite. Après, c'est toujours beaucoup plus compliqué, hein, parce que les Américains, effectivement, ils veulent absolument avoir un marché ou accès au marché britannique pour l'agriculture. Donc, ça veut dire entre autres le fameux poulet. Lavé par la
chlore. Le fameux poulet au chlore.
Exactement, le fameux poulet au chlore et les bœufs aux hormones et tout ce que vous voulez. Donc, ça pose de vrais problèmes. Ils veulent aussi, les Américains, ils veulent justement l'ouverture du marché de la santé. Hein, et je suppose qu'Anemone Kova-Smith, alors on en parlera tout à l'heure,
absolument.
Et ça, c'est des choses quand même qui vont passer très très mal, à mon avis, pour l'électorat.
Qui vont passer très très mal. Qui ne vont pas passer. Oui, que Boris Johnson n'acceptera pas.
Ah bah ça on verra bien. Hein. Ça
c'est. Pour l'instant c'est ce qu'il dit. Pour l'instant
oui,
il sort de question. Il dit, on n'ouvrira pas.
Oui mais Boris Johnson il est pas fiable donc il peut dire une chose aujourd'hui et je pense que après demain il pourra faire autre chose. Après la question se pose du fond c'est que pourquoi le Royaume-Uni n'a pas pu mieux exporter vers les États-Unis auparavant. Parce que quand même, d'autres pays européens l'ont fait. Pourquoi sortir l'Union européenne pour mieux exporter? Ça, c'est un peu illogique, d'une part. Et d'autre part, le vrai problème, c'est que le Royaume-Uni, tel que les choses se développent actuellement, ils vont avoir des sérieuses entraves dans leur commerce avec le reste de l'Europe, qui reste quand même le marché le plus important et juste à côté. Et dans les échanges internationaux.
Pourquoi?
Parce que si S'ils sortent de toute la réglementation européenne, s'ils n'acceptent plus du tout que la jurisprudence européenne règle en fait les échanges entre le Royaume-Uni et l'Europe, ils vont aller vers un régime d'échange tel qu'il existe, tel que l'Europe a avec des partenaires tiers. Donc ça va causer quand même de vrais problèmes sur les flux d'échanges actuels entre le Royaume-Uni et l'Europe. Et dans la mesure où normalement dans les échanges internationaux on commerce le plus avec les gens qui sont à côté, hein, et commercer avec les gens qui sont plus loin c'est beaucoup plus difficile. Il y aura un vrai coût négatif à mon sens de ce point de vue-là. Donc c'est vraiment très contradictoire.
Catherine Mathieu, sur ce point-là, parce que effectivement, Nicolas Sowell a raison. En tout cas, il l'a dit, Boris Johnson, le poulet lavé au chlore, c'est hors de question. On n'ouvrira pas aux entreprises américaines notre marché de la santé. Donc, on a le sentiment qu'en réalité, alors c'est très bien, il défend les intérêts des Britanniques, mais il faut bien qu'il fasse quelques concessions aux Américains s'il veut espérer cet accord de libre-échange. S'ils veulent l'obtenir.
Ça sera toute la difficulté, effectivement, des négociations entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Alors, il y a eu un rapport qui est sorti la semaine dernière du gouvernement britannique qui faisait une étude sur ce que le Royaume-Uni gagnerait à négocier un accord de libre-échange avec les États-Unis. Et on aboutissait à un chiffre de 0,17% du produit intérieur brut en gains à négocier un accord de libre-échange avec les États-Unis dans l'hypothèse la plus favorable. Donc, autant dire...
C'est bien ou c'est pas bien? Je me rends pas compte.
C'est un chiffre tout petit. Voilà ce que l'on peut dire.
Voilà, non, j'ai aucune idée.
C'est ça qu'on peut dire. Et donc, alors si on le compare en plus, hein, alors avec les méthodes qui sont généralement utilisées et qui passent par des modèles qui prennent en compte les liens commerciaux entre les pays et la distance géographique, on obtient généralement des résultats au fait que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne s'il n'y a pas un accord de libre-échange, le Royaume-Uni pourrait perdre, ou pas un bon accord de libre-échange, pourrait perdre 3 à 4% de produit intérieur brut. On peut le mettre en regard du 0,17% de produit intérieur brut qu'il gagnerait à négocier un accord de libre-échange avec les États-Unis. Donc ça veut dire pratiquement rien. Aujourd'hui quand même, enfin plutôt dans la problématique des dernières années, on a quand même vu que le Royaume-Uni a réussi à dégager un excédent commercial avec les États-Unis assez important, alors qu'il a toujours eu un déficit commercial avec l'Union européenne. Et dans le débat sur le Brexit, il y avait tout de même cette idée-là, et qui repose sur un fait, hein, qui est que les Britanniques arrivent mieux à exporter vers les États-Unis que vers l'Union européenne. En tout cas, ont un solde extérieur positif et qui n'a pas cesser de croître vis-à-vis des États-Unis, alors que le déficit s'est creusé avec l'Union européenne. Donc il y a quand même, on peut comprendre dans la logique des Brexiteurs, le fait de vouloir s'ouvrir vers le vaste monde quand on regarde les chiffres d'échange du commerce extérieur, c'est vraiment vers les États-Unis et puis vers les anciens du pays du Commonwealth que le Royaume-Uni s'en sort le mieux.
Catherine Mathieu, je poursuis encore un tout petit peu avec vous, parce que après tout, le monde ne se limite pas à l'Union européenne et aux États-Unis. Le 20 janvier dernier, Boris Johnson a accueilli un certain nombre de dirigeants africains à Londres. Est-ce que, par exemple, là, il y a des marges intéressantes?
Bien, je dirais à très court terme, si on est un petit peu cynique en termes économiques, pas vraiment. Parce qu'en fait, les échanges avec l'Afrique sont à un niveau très faible. Et donc, il y a peu de gains à espérer. Je pense que là où le Royaume-Uni, effectivement, peut espérer gagner le plus, c'est vis-à-vis des États-Unis, parce qu'il y a déjà des liens commerciaux qui sont importants, parce qu'il y a déjà un excédent important, et puis que les États-Unis sont une économie qui a une croissance qui reste plutôt dynamique. Donc c'est une zone porteuse en termes de croissance. Et d'ailleurs, au cours des 10 dernières années, hein, ça a été vraiment flagrant. La différence d'évolution de croissance entre les États-Unis et la zone euro, c'est vraiment vers les États-Unis que le marché est le plus porteur.
Nicolas Sowell, tout à l'heure, Catherine Clément rappelait combien, au fond, l'intégration de la Grande-Bretagne à l'Union européenne avait accentuer, disons, les logiques libérales à l'intérieur de l'Union européenne. Vous aviez d'ailleurs écrit un papier sur ce sujet intitulé « De la Thatcherisation de l'Europe au Brexit ». Est-ce qu'on peut imaginer que la sortie de la Grande-Bretagne ait l'effet inverse, c'est-à-dire fasse reculer justement les logiques libérales à l'intérieur de l'Union, où il vous semble que l'environnement actuel, le climat actuel n'y est pas propice ?
Peut-être à moyen terme, oui, c'est possible. Après, il faut voir un peu les comment les dynamiques vont évoluer à l'intérieur du reste de l'Union européenne. Il faut savoir quand même que c'est vrai que les Britanniques, ils avaient un impact vraiment direct, très important dans la construction du marché unique à partir des années 80. Ça, c'est sûr, et ça, on peut le trouver facilement. Mais bon, finalement, ils n'étaient pas seuls dans l'histoire non plus. Je pense que les Allemands, ils étaient pour pas mal de choses. Les Hollandais, il y a quand même plusieurs pays qui sont relativement libre-échangistes, si je peux utiliser cette expression-là, qui sont toujours dans l'Union européenne. Donc, ils vont toujours avoir un peu leur mot à dire. Après, il faut voir un peu comment l'Union européenne, comment la zone euro va évoluer. Donc ça, c'est des questions quand même qui sont un peu ouvertes. On ne sait pas comment ça va se passer par rapport au coronavirus, pour revenir à notre thème de départ. Donc, c'est vrai que le départ des Britanniques, ça va enlever un partenaire qui a, en règle générale, poussé toujours vers la libéralisation. Et aussi qui était assez important, je pense peut-être aussi en termes de réglementation financière, compte tenu de la place de Londres, de savoir-faire britannique. Donc ça va changer des choses. Ce serait pas évident pour le reste de l'Europe de faire sans cette plateforme à Londres. Donc c'est dans deux sens là. S'ils partent, c'est une perte pour eux, mais ça va rendre certaines choses plus compliquées pour nous. Mais peut-être à terme, ça pourrait aussi laisser les Européens développer peut-être un modèle de finance qui sera peut-être un petit peu différent et également avoir peut-être un autre arbitrage entre le marché et le pouvoir public. Mais il faut voir un peu en fait.
Catherine Mathieu, votre avis là-dessus ?
Ben, je pense qu'effectivement, le départ du Royaume-Uni fait partir c'est le partenaire effectivement le plus attaché au modèle libéral qui part. Mais derrière, comme vous l'avez dit à l'instant, Nicolas Sowell, il y a d'autres pays qui ont suivi la même stratégie et qui aujourd'hui sont sur des lignes très proches, à commencer par les Pays-Bas qui prennent le relais. Et on l'a vu récemment sur un point particulier lors de la discussion sur la mise en place du prochain budget européen. Les Pays-Bas ont pris la tête pour dire on n'est pas d'accord pour augmenter le budget alloué à l'Union européenne.
Donc il y a encore des libéraux en Union européenne.
Mais oui, et en fait, on s'est dit, ils n'étaient pas seuls. Parce que voilà, donc maintenant, il y a un groupe de pays qu'on appelle les pays frugaux, qui sont menés par les Pays-Bas, mais qui ont aussi l'Autriche, le Danemark, enfin, un certain nombre de pays qui ne souhaitent pas du tout qu'on augmente les dépenses. Et alors, on est en train de d'ergoter sur est-ce qu'on augmente le budget de l'Union européenne. On le fait passer de 1,07, ce qui était la proposition initiale de Charles Michel. Les Hollandais et l'ensemble des pays frugaux ont dit non, il faut ramener le budget à 1% du PIB de l'Union européenne. Et puis les pays qui sont le plus à l'est de l'Europe, eux, souhaitent que le budget soit un peu augmenté parce qu'ils bénéficient des fonds, en particulier des fonds de cohésion. Mais on est dans une situation où d'un côté, on discute... On prend en compte en fait le fait qu'il y a un besoin de changer les politiques, qu'il y a le changement climatique qui est là, qu'il faut avoir un pacte vert et on n'est pas capable de dépenser un tout petit peu plus pour l'Union européenne. Donc à l'intérieur de l'Union européenne, tout ça pour dire qu'effectivement il y a plusieurs pays qui prennent la suite du Royaume-Uni sur cette question du budget européen, sur cette question de la solidarité. Et après sur les aspects libéraux que... promouvait le Royaume-Uni, effectivement, l'Allemagne, les Pays-Bas sont...
Le libéralisme économique a encore de beaux jours
devant lui. Il est à l'intérieur de l'Union européenne.
On va évoquer dans quelques instants la question du système de santé britannique. On va retrouver Anémone Cobert-Smith dans quelques instants par téléphone. Mais avant, peut-être un tout dernier point avec vous, Nicolas Sowell. Et là, je m'adresse aux spécialistes de civilisation britannique. Parce que l'objet là de tout cela, c'est d'améliorer la santé économique de la Grande-Bretagne. Rappelons quand même que ce qui a été le moteur de ce Brexit, c'est en tout cas un certain nombre de populations qui se sont senties à l'écart justement du développement, qui se sont senties les perdants de la mondialisation. Donc il va falloir ramener tout le monde, pas seulement les plus favorisés dans tout cela. Faisons une hypothèse, dans 10, 15, 20 ans, la recette qui est proposée aujourd'hui par le gouvernement de Boris Johnson et puis ses successeurs n'a pas fonctionné. Et c'est une catastrophe économique. Finalement, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne est une mauvaise affaire économique. Est-ce qu'on peut imaginer un retour des Britanniques dans l'Union européenne ?
Peut-être à terme. Je dirais, il y a plusieurs choses à dire. Je dirais d'abord, en fait, le vote Brexit et la radicalisation qui se fait actuellement en termes de casser de plus en plus les liens avec le reste de l'Union européenne. Ce n'est pas uniquement un argument économique. Il y a un fort argument politique. Il y a aussi pas mal de gens qui pensent, bon, si ça nous coûte, si on a moins d'argent, bah, c'est pas grave, au moins on sera souverain. Donc, il y a aussi un argument quand même assez souverainiste, nationaliste, comme je l'ai déjà dit, ouvertement nationaliste, qui pousse le Brexit. Pour de ce point de vue-là, les considérations économiques sont un peu moindres. Après, c'est vrai qu'on envisage une croissance inférieure par rapport à la croissance qu'il aurait eu lieu si le Grande-Bretagne avait resté dans l'Union européenne. Je pense pas qu'il y aura pas un effondrement de l'économie comme ça. Il y aura peut-être une déperdition ou une croissance moins bonne dans les années à venir, mais je pense pas qu'il y aura un effondrement comme ça. Donc je pense que si dans l'avenir il y a un désir de retourner dans l'Union européenne, ce serait plutôt pour des raisons politiques, un changement de génération.
Et pas forcément pour des raisons économiques. On est avec vous, Nicolas Sewell, c'est vous, Catherine Mathieu, dans cette semaine consacrée au laboratoire politique de l'Europe. Aujourd'hui, on s'intéresse à la Grande-Bretagne.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Soap. Happy birthday, dear Melodic.
Thank you very much.
Happy birthday to you.
Voilà, c'est la voix de Boris Johnson que vous entendez, qui fait une leçon de lavage de main devant les caméras, ce qu'il considère en tout cas pour le moment comme suffisant, puisque le gouvernement s'en tient à la phase 1 de la lutte contre l'épidémie, à savoir contenir le virus. Et pourtant, tous les regards sont tournés vers la crise sanitaire liée au coronavirus. Et l'inquiétude grandit dans ce pays où, malgré le peu de cas enregistrés, le NHS, le système britannique de santé, est déjà placé en alerte 4, qui est le plus haut niveau, que le pays est en queue de peloton en termes de lits intensifs, bien moins que ce qu'il y a du côté de l'Italie, de l'Allemagne ou de la France. Et pourtant, ce National Health Service, c'est le fleuron de l'État-providence britannique. Il a été construit brique par brique au sortir de la Seconde Guerre mondiale et il se trouve qu'aujourd'hui il est en très mauvaise posture. On va essayer de comprendre pourquoi. Anémone Cobert-Smith, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de civilisation britannique à l'université Sorbonne Paris Nord. Nombre d'observateurs, Anémone Cobert-Smith, dont je crois vous faites partie, considèrent que l'essentiel des problèmes actuels du NHS provient des politiques d'austérité qui ont été menées dans les années 2010. Qu'est-ce qui s'est passé de si grave à ce moment-là et qui, au fond, responsable de l'état si préoccupant de ce système de santé britannique ?
Oui, effectivement, depuis une dizaine d'années, depuis 2010, donc c'est l'arrivée au pouvoir de la coalition conservatrice libérale démocrate, on a vu un très fort manque d'investissement dans le système de santé anglais, dans le NHS. Et c'est un sous-investissement qui avait fait suite tout de même à une période où il y avait eu au contraire un fort investissement sous les travaillistes, de 97 à 2010. Mais donc voilà, sous les travaillistes, il y avait eu cette politique d'investissement parce que c'était en quelque sorte une reconnaissance du fait que le système de santé était sous-financé, mais de façon chronique, depuis les années 70-80. Donc il y avait eu un rattrapage effectué dans les années 2000-2010, disons, avec des augmentations budgétaires qui étaient de l'ordre de plus de 5% par an hors inflation, historiquement à un niveau très élevé. Et ça avait permis une sorte de rattrapage. Même les statistiques internationales l'avaient montré. On avait rattrapé le niveau d'investissement, enfin des dépenses de santé de l'OCDE, par exemple, en 2010. Mais donc, à partir de 2010, on passe à une politique d'austérité, comme vous l'avez dit. Et cette politique d'austérité, elle n'a pas frappé le NHS en premier lieu. Le NHS était soi-disant épargné, tout comme le secteur de l'éducation. Donc, il n'y a pas eu de coupe claire. Mais en fait, il y a eu une grosse baisse des augmentations budgétaires qui se sont limitées à 1,3 par an en moyenne, ce qui, de l'avis de tous les experts, est complètement insuffisant. Il faudrait une augmentation d'environ 4% par an, donc on était très loin du compte. Et on a commencé à se rendre compte vraiment, enfin le public s'est rendu compte vraiment des problèmes vers le milieu, vers 2015, disons, le milieu de la décennie, quand c'est vraiment devenu très évident en termes de délais d'attente opératoire qui se sont allongés, d'attente aux urgences qui se sont allongées, enfin voilà.
Mais alors, il y a la question, j'allais dire, purement de l'investissement. Vous nous le dites, il y a eu un ralentissement, effectivement, des investissements. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi touché au système lui-même? Il y a en 2012 une loi qui est votée, justement, dans le secteur de la santé. Qu'est-ce qu'elle prévoit précisément? Et est-ce qu'elle change pas, justement, quelque chose de structurel dans l'organisation de ce système de santé britannique?
Alors, effectivement, il y a la loi de 2012, mais qui va... voilà, en fait, c'est une forme de réorganisation du secteur de la médecine de ville. Donc, les médecins généralistes sont sommés, à partir de 2013, hein, de se regrouper en groupements de médecins généralistes qui vont, en fait, procéder à l'achat des soins spécialisés qui ne peuvent pas être offerts dans le secteur de la médecine de ville. Parce que, il faut savoir que depuis les années 90, on a un système de marché interne hein, dans le système de santé britannique, voilà, qui avait été mis en place sous les conservateurs de l'époque. Donc cette réforme de 2012, c'est un peu une intensification de cette réforme au niveau de la médecine de ville. Et notamment, on somme ces groupements de médecins généralistes de considérer à la fois les offres faites par le secteur privé et par le secteur public, hein, dans l'offre de soins. Et ça va aboutir à une augmentation, quelque part, de la part du secteur privé dans la fourniture de soins, si vous voulez. Quoi. Mais je dirais que c'est... Bon, ça, effectivement, il y a eu quelques modifications effectuées à la loi, parce que la loi devait, en fait...
Mais c'est pas décisif, c'est ça que j'entends, en fait, Anémone Cobert-Smith. C'est pas décisif. Alors, si on en revient, si vous le voulez bien, peut-être à la période actuelle, et ce que Boris Johnson compte faire pour, justement, réparer ce système de santé britannique qui est quand même bien mal en point. Il a annoncé énormément de choses. La création de 50 000 postes d'infirmières, le recrutement de 6 000 médecins généralistes, il a prévu de construire une quarantaine d'hôpitaux. Bref, tout va aller beaucoup mieux avec Boris Johnson.
Oui, en fait, il a fait effectivement beaucoup de promesses. Alors, il faut tenir compte, évidemment, du contexte du Brexit, hein, puisqu'on sait qu'il y avait eu des promesses qui avaient été faites lors de la campagne du Leave, hein, notamment que, grâce à la sortie de l'Union européenne, il y aurait 350 millions de livres de plus par semaine pour le système de santé, hein, qui s'est avéré être complètement faux. Hein, ça a été démenti dès le lendemain de la victoire du Leave, hein, en fait. Mais néanmoins, c'est un peu resté quand même dans la mentalité des gens. Il faut savoir que le NHS est une véritable institution au Royaume-Uni. Hein. Les gens y sont extrêmement attachés. C'est vraiment le pilier de l'État-providence. Et donc, les conservateurs, à partir de 2018, déjà sous Theresa May, ont promis que l'austérité allait se terminer pour le système de santé et qu'il y aurait de forts investissements, comme vous l'avez dit. Et donc, Boris Johnson a effectivement réitéré qu'il y aurait l'investissement d'ici à 2024 de 34 milliards de livres supplémentaires. Bon, pour donner un ordre de grandeur, le budget annuel du NHS anglais est de l'ordre de 130 milliards de livres. Hein. Donc, c'est conséquent.
Et alors, en fait, il a mis les moyens sur la table? Il y a eu hier le budget qui a été présenté. Est-ce que les moyens ont été mis sur la table?
Ben oui et non, parce que cet investissement qui est promis, qui a été promis là dans le, qui a été inscrit dans le manifeste électoral et qui en fait est vraiment ce qui a été annoncé hier à nouveau, si vous voulez. Hein. Donc cet investissement reviendra à une augmentation budgétaire pour le service de santé d'environ 3,3% par an, ce qui n'est pas suffisant de l'avis des experts, hein, puisqu'il faudrait environ 4% par an. C'est d'ailleurs ce qu'avait promis Jeremy Corbyn, donc le leader travailliste, dans son manifeste électoral. Hein. Donc c'est évidemment mieux que la période précédente, hein, beaucoup mieux, mais ça ne va pas être suffisant. Et puis, comme vous le disiez, il y a ce problème du personnel. Hein. Il y a environ 100 000 postes vacants dans le système de santé, hein, ce qui représente environ 10% de la masse salariale. C'est énorme. Et donc, Boris Johnson a promis de recruter 50 000 infirmières en plus, mais il s'est avéré qu'encore une fois, ce sont des promesses dont on peut un peu douter. Il ne s'agirait pas, en fait, de création de postes. En fait, on parlerait plutôt de 30, 31 000 nouveaux postes d'infirmières. Voilà. Donc, les promesses sont pas toujours ce qu'elles, voilà. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance? Ce n'est pas sûr. Après, c'est sûr que dans le contexte de la crise du coronavirus, Là, je pense que le gouvernement n'a pas le choix. Hein.
Il va devoir faire des investissements dans le secteur. Ça paraît vite, ça paraît clair.
Vous l'avez dit, il y a un très gros problème. Hein. Il faut quand même voir que depuis maintenant 30 ans, hein, on a des réformes, des politiques managériales dans le système de santé. Et notamment, ces politiques ont conduit à une baisse du nombre de lits hospitaliers. Hein. Bon, c'est pas que en Angleterre, c'est un peu mondial, cette tendance. Mais le nombre de lits hospitaliers pour 1000 habitants est parmi l'un des plus bas de l'OCDE. Hein. Il est extrêmement bas. Il est de l'ordre de 2,3-2,4 lits pour 1000 habitants. C'est très, très bas. Hein. C'est à peu près 6 en Allemagne, par exemple. Hein. Et donc, en cas de crise épidémique comme on le vit actuellement, de toute évidence, ça va poser un problème. Hein. Donc ils réagissent, mais assez tard quand même. Hein.
Tout dernier mot peut-être à Anémone Cobert-Smith, et je vous demanderai une réponse courte, parce que malheureusement, on arrive au terme de cette émission, mais elle me paraît importante, parce qu'on a évoqué tout à l'heure la question de peut-être futur accord de libre-échange entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Il se trouve qu'en matière de santé, on est très inquiet du côté des Britanniques, parce que notamment la possibilité de l'ouverture du marché des médicaments aux entreprises américaines coûterait très cher. Alors, est-ce que ça veut dire que, compte tenu précisément de la crise sanitaire, là, la crise du coronavirus qui est en train de se profiler, cette crainte-là n'est plus d'actualité parce qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui d'ouvrir comme on l'avait prévu ce marché? Ou est-ce que les craintes sont toujours là pour vous, Anémone Cobert-Smith?
Je pense que les craintes sont toujours là. Hein. Mmh. Donc donc ça remonte déjà à plusieurs mois, cette question. Hein. Donc dans le cadre d'une négociation d'accord de libre-échange, effectivement, les États-Unis incluraient ou souhaiteraient inclure la question des médicaments, hein, de l'achat de médicaments par la Grande-Bretagne, donc de l'achat de médicaments américains. Or, il se trouve que ces médicaments sont globalement beaucoup plus chers que les médicaments qui sont produits au Royaume-Uni et en Europe. Hein. Il faut savoir que le budget pharmaceutique actuellement dans le NHS est tout à fait raisonnable, hein. Et notamment parce qu'il y a une très grosse utilisation de médicaments génériques. Mmh. Or, ça pourrait être remis en question par cet accord de libre-échange. Alors,
on parle d'un surcoût de 30 milliards d'euros par an. Alors, je ne sais pas quelle est la réalité de ce chiffre, c'est un chiffre que j'ai lu hier, mais bon, ça pourrait être environ ça, quoi.
Oui, ça pourrait. Ouais. C'est pas sûr, évidemment. Alors, du coup, c'est une question
très rapidement, parce qu'on arrive vraiment au terme de l'émission.
D'accord. Bah, c'est une question hautement politique. Donc, ça a été démenti par Boris Johnson. Mais encore une fois, je pense que ça, c'est vraiment une grande question pour. Voilà, ça sera un coût supplémentaire pour le système de santé qui est déjà très mis à mal. En fait.
Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Anémone Cobert-Smith, d'avoir été avec nous ce matin. My neighbours don't drink at the local or have kippers for breakfast like me. The food that they eat smells disgusting. They'd rather drink coffee than tea. Et merci à nos deux invités qui étaient avec nous ce matin. Catherine Mathieu, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes économiste à l'OFCE. Vous avez notamment signé un billet sur le site de l'OFCE. Brexit, les négociations recommencent. Le re étant en parenthèse. On mettra en lien évidemment sur la page de Culture Monde pour que les auditeurs puissent s'y retrouver. Nicolas Sowels, un grand merci également d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en civilisation britannique à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Et je rappelle que vous aviez écrit, c'était il y a quelques années, mais comme c'est une perspective historique, c'est toujours intéressant. Les conservateurs et la réforme de l'État et des services publics en Grande-Bretagne 1979-1997. C'était chez L'Harmattan, également à retrouver bien sûr sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup à tous les deux, 11h presque 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et alors vous allez nous révéler qui est l'auteur de la fameuse formule « nos bourgeoisies, nos démocraties ».
C'était le sociologue américain Barrington Moore, quelque peu oublié aujourd'hui. La formule passe pour résumer sa philosophie politique. À l'issue d'une étude comparative sur le processus de modernisation en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Japon et en Russie, eh bien Barrington Moore était en effet parvenu à cette conclusion « nos bourgeoisies, nos démocraties, sans une classe moyenne puissante et indépendante de l'État, la démocratie ne tient pas. Et c'est ce qui expliquerait l'échec de la révolution de février 17 en Russie.
Les démocraties ont connu des crises d'une gravité variable entre les deux guerres mondiales, notamment parce que leurs classes moyennes ont été ruinées par les crises et par l'inflation. Mais les trois décennies qui ont suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale ont été marquées, elles, dans nos démocraties, par le phénomène dit de moyennisation, à savoir une convergence vers les classes moyennes de toutes les autres catégories sociales, y compris des ouvriers d'usine. Mais ce phénomène s'est enrayé depuis. Jean-Marc Vittori a parlé d'un effet sablier pour décrire l'écartèlement subi par ces fameuses classes moyennes dont une partie a vu ses revenus s'accroître, tandis qu'une autre subissait un déclassement douloureux. Eh bien, le géographe américain Joel Kotkin vient de proposer une nouvelle théorie pour expliquer le lien entre crise des classes moyennes et crise de la démocratie. En réalité, écrit-il, il n'y a pas une seule classe moyenne, une seule bourgeoisie, puisqu'en anglais on se sert du même mot, middle class, il y en a deux. Et leurs chemins respectifs se sont écartés ces dernières années sans qu'on y ait pris suffisamment garde. Alors pour désigner ces deux catégories qu'il distingue, Kotkin utilise à dessein des expressions assez anciennes. D'un côté, il parle de la yeomanry et de l'autre de la clerisy. Pour résumer sa pensée, vous auriez d'un côté les classes moyennes traditionnelles, indépendantes, comme les commerçants, artisans, cultivateurs, petits entrepreneurs, et de l'autre, les clercs, à savoir les cadres et les professions intellectuelles. Alors l'activité des premiers dépend très largement, dit-il, du marché. Or, leurs revenus se sont énormément dégradés. Les seconds, les clercs, au contraire, opèrent dans une large mesure en dehors des contraintes de marché. Soit qu'ils dépendent des dépenses publiques, soit qu'ils soient employés dans ces nouveaux secteurs quasi monopolistiques de la high-tech. Mais comme les clercs d'autrefois, ils exercent la fonction de légitimation du système et ils en assurent la direction intellectuelle et morale. Ils contrôlent notamment les médias et le système éducatif. Or, ils sont méfiants envers les comportements spontanés de la société et ils entendent la contrôler et la diriger. Ce sont d'ailleurs les clercs qui se chargent partout de l'édiction et du contrôle des normes. Au contraire, les classes moyennes traditionnelles, elles, sont gênées dans leurs activités par l'accumulation de ces normes et elles pestent contre les bureaucraties qui entravent leur activité. Or voilà que se pointe la transition énergétique. Elle est pilotée par les clercs, elle a le soutien de la super-élite, mais elle va heurter de plein fouet ces classes moyennes traditionnelles. Oui, parce que leurs activités dépendent des sources d'énergie abondantes et bon marché que leur ont longtemps procuré les énergies fossiles polluantes.
Et pour Kotkin, la récente poussée des conservateurs aux élections canadiennes et la victoire écrasante des conservateurs en Grande-Bretagne, eh bien c'est la revanche des classes moyennes traditionnelles, celle des petites villes contre les capitales, progressistes et élitistes. Les électeurs de Boris Johnson, dit-il, sont majoritairement des gens qui sont propriétaires de leur maison, Brice.
Oui, mais si l'on suit bien ce géographe, Kotkin, donc ces mouvements d'humeur ne sauraient demeurer longtemps majoritaires sur le plan électoral. En effet, ce qu'il appelle la yeomanry est sur le déclin, il l'admet lui-même, non seulement quant au partage des revenus, on l'a vu, mais sur le plan numérique. En effet, la concentration de la propriété entre des mains de moins en moins nombreuses mine le socle sur lequel étaient assises ces classes moyennes traditionnelles. Et c'est particulièrement évident dans le domaine agricole, où les petits paysans, on le sait, sont étranglés et de plus en plus nombreux à jeter l'éponge. Mais de son côté, la classe des clercs, comme il les appelle, au contraire, est en expansion et elle améliore sans cesse sa part du gâteau. Plus la sphère publique s'étend, et elle s'étend partout, plus s'accroît le nombre des clercs. Et le cas de la médecine est exemplaire. Autrefois relevant des professions libérales, les professions de santé dépendent de plus en plus en réalité des politiques publiques. On vient de le montrer à l'instant dans cette émission. Or, pour Kotkin, cette évolution est dangereuse pour la démocratie. À ses yeux, ce régime, depuis les cités grecques jusqu'à notre modernité, a toujours reposé sur une classe prépondérante de petits propriétaires, indépendants des grandes institutions, qu'elles soient publiques ou privées. Eh bien, de nos jours, cette indépendance idéale ne concerne plus qu'une minorité de nos fameuses classes moyennes, c'est la cléricature qui l'emporte. Risque-t-elle d'installer un despotisme éclairé au nom de ses compétences supposées ?
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. Demain, pas de chronique à la radio, mais une chronique sur le site de France Culture, cher Brice. On se retrouve donc lundi.